France Culture, les matins d'été, Olivia Gesbert.
C'est l'heure de l'invité culture des matins et c'est à lui qui revient, ou qui est revenu, hein, même on peut le mettre au passé, l'honneur d'ouvrir cette année le Festival d'Avignon dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Une 72e édition autour du genre. À 36 ans, le metteur en scène est déjà un habitué du festival. Il y a 4 ans, il donnait à voir à Avignon l'intégralité de son Henri VI, spectacle fleuve adapté de Shakespeare, Molière, de la mise en scène pour le théâtre public. En 2016, il y présentait son Radeau de la Méduse, inspiré de Georg avec les élèves de l'École supérieure d'art dramatique de Strasbourg et chroniquer le Festival d'Avignon d'hier à Après-demain, un feuilleton d'anticipation dans Le ciel, la nuit et la pierre glorieuse. Aujourd'hui, il revient avec Thieste de Sénèque. Il est en duplex avec nous d'Avignon. Bonjour Thomas Joly.
Bonjour Olivia Gesbert.
Merci d'être avec nous. Une tragédie romaine. Et de vous être levé, ça ne doit pas être évident quand on joue tous les soirs. Bon, une tragédie romaine dans une résidence pontificale de style gothique, ça a de la gueule. Mais est-ce que ça avait aussi du sens pour vous de présenter cette pièce de Sénèque dans la cour d'honneur du Palais des Papes?
Oui, c'était. Enfin, le lieu a été assez important pour la décision. D'abord parce qu'une tragédie romaine se jouait devant un grand mur et que ce grand mur, il était là, il est là. Il fait 25 mètres de haut tous les soirs. Et que ce palais servait de décor. Moi, c'était important de penser à un spectacle qui s'inscrive dans la cour d'honneur, pour la cour d'honneur, et pas de remettre un plateau standard devant ce mur. Donc, il y avait ça. Et puis, surtout, il y a la grande masse de public, parce que c'est un théâtre, le théâtre romain est un théâtre d'empathie, qui se jouait à l'époque devant 17 000 personnes. C'est dire, c'était presque la Coupe du Monde, quoi. Et cette grande jauge de 2000 places, cette grande assemblée sous les étoiles, je crois, était propice aussi à ce type de pièce.
Attention Thomas Joly, la furie surgit.
Je veux que champion de tous les crimes s'affrontent. Épée contre épée. Plus de morale, plus de mesure. Je veux la vengeance pure. La folie harcèlera leurs esprits embrumés et la rage des pères revivra chez les fils. À chaque génération, je veux des criminels bravant l'ordre divin des choses. Aucun n'aura le temps du remords. Sans cesse renaîtra le mal. La vengeance fera pulluler les crimes d'un seul. Il en sortira 10. Je le veux.
Thieste, une pièce de Sénèque écrite au siècle Ier, pièce cannibale sur la douleur, la trahison qui engendre la vengeance, la haine fratricide, le pouvoir et la fin du monde où les hommes s'auto-dévorent. Je veux une nuit totale, un ciel déserté par le jour, prévient justement la furie qu'on vient d'entendre. Une pièce sombre où vous retrouvez le noir, votre couleur, Thomas Joly. Avons-nous perdu le soleil ou l'avons-nous chassé, s'interroge le cœur. Soleil, je n'aurai pas une plainte si tu disparais pour toujours. Est-ce que c'est le texte qui a donné sa lumière à toute la scénographie?
Oui, bien sûr, c'est une pièce merveilleusement bien traduite par Florence Dupont et une pièce qui brasse énormément d'images très fortes. Et d'ailleurs, sa violence passe par les mots. Il n'était pas question de représenter la violence sur scène, que qu'elle soit le meurtre des enfants ou le cannibalisme. Non, Sénèque est plus malin que ça. Sénèque fait appel plutôt à notre imagination, à notre représentation mentale. Donc, c'est déjà une pièce très vénéneuse à cet endroit-là, parce que les spectateurs sont infectés d'images monstrueuses, morbides, sans qu'ils ne les voient sur le plateau, mais bien qu'ils soient eux-mêmes en train de les générer, même si évidemment la direction d'acteur joue là-dessus quand même. Et puis l'autre chose, c'est que c'est une pièce fantastique, c'est-à-dire que à tous les moments, les personnages sont soumis à des signes de l'extérieur, bien sûr les dieux, les climats, des cataclysmes, mais aussi des signes intérieurs, leurs organes, leurs membres. Donc c'est une pièce magique aussi. Florence Dupont a eu cette phrase incroyable, elle m'a dit ce qui se rapproche le plus du théâtre romain aujourd'hui, ce serait la science-fiction. Je suis un peu tombé de ma chaise, mais elle avait complètement raison. C'est-à-dire que des êtres humains soumis à des forces en opposition à elle, ou bien travaillant dans un univers magique, bien oui, c'est la science-fiction, effectivement.
Noirceur de l'humanité présent déjà dans beaucoup de vos pièces, et notamment dans le Radeau de la Méduse que vous présentiez à Avignon. On l'évoquait il y a 2 ans, si je ne me trompe. Vous dites montrer le massacre des enfants de Thieste par Atrée. ça n'a pas été le choix retenu, mais pourquoi? C'était une indication directement de Sénèque ou c'est vous qui avez fait ce choix-là?
Non, c'est que on a essayé, pour tout vous dire, on a essayé de faire une pantomime ou bien une scène enfin sans texte, puisque c'est quand même hors champ, et en fait ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que la représentation du crime, c'est bien pour ça que ça m'a intéressé, c'est que c'est un théâtre impossible, c'est impossible à montrer, et Sénèque le sait déjà, puisque il fait venir un messager qui va raconter tout ce qu'il a vu au cours d'un long récit qui est comme une espèce de train fantôme dans un décor d'apocalypse, où il raconte très précisément, très méticuleusement, voire presque anatomiquement, le dépeçage des enfants, etc. Pardon pour ceux qui prennent leur petit déjeuner. Hein. Mais c'est un petit peu comme Shakespeare, par exemple, qui nous raconte tous ces combats hors champ avec un messager qui vient. Voilà. Donc le hors champ, pour le coup, est la vraie solution dramaturgique qu'il nous propose. Donc je n'ai fait que suivre finalement les indications de Sénèque, et je pense qu'il a raison, parce que ce qu'un spectateur peut se figurer, même si on me donnait tous les moyens du monde, et tout le temps, et toutes les équipes avec qui je travaillaient de manière le plus talentueuse possible, ce serait toujours moins pire que ce que chaque spectateur peut se représenter dans son esprit. Ça s'appelle la fantasia, les Grecs appelaient ça la fantasia.
Et voilà, un décor plutôt épuré sur le plateau, seul trône en majesté, une tête immense, bouche ouverte et yeux dont on ne sait pas vraiment s'ils sont fermés ou au contraire écarquillés, qui emprunte ses traits à la muse de la tragédie, une main aussi, une grande main et un puits au centre du plateau, rejoint par la table d'un banquet, des têtes et des mains comme ceux des enfants de Thieste, qui sont les seules parties qu'Altré ne fera pas manger à leur père après les avoir tués. Qu'est-ce qui jaillit, Thomas Joly, de ce puits, et qu'est-ce qui s'y perd à jamais?
Ce qui en jaillit, eh bien, c'est le fantôme. Voilà, parce que voilà, la pièce commence par un fantôme. C'est vous dire, pour un metteur en scène, là, le défi, un fantôme qui est sorti du Tartare. Voilà, comment est-ce que je fais advenir un fantôme sorti du Tartare? Le fantôme de Tantale, leur grand-père, qui lui-même a tué son fils Pélops et qui a été damné pour ça, mis au supplice. Et il est convoqué par le théâtre, par la scène, par la furie, pour infester la maison de ses petits-fils, pour que ses horreurs, son crime puisse se perpétuer et recommencer, et puis maudire toute la lignée.
C'est la malédiction, quand même.
C'est la malédiction des Atrides. Hein. Atrée donnera les Atrides, évidemment. Donc c'est directement, Sénèque nous emmène dans un théâtre total. Ce que je trouve assez heureux dans ce théâtre, c'est que c'est un théâtre ludique, c'est-à-dire que malgré tout ce qu'on est en train de raconter, Sénèque convoque une théâtralité exacerbée, une théâtralité fantastique. Les Romains connaissaient cette histoire par cœur, un petit peu comme nous aujourd'hui on connaît Blanche-Neige ou Le Petit Poucet. Donc les Romains venaient pour voir comment est-ce que l'auteur s'en était emparé et faire sortir un fantôme dès le départ de la pièce. C'est de la part de Sénèque déjà faire vœu de jouer du théâtre, de jouer d'une méta-théâtralité même, ou faisant revenir un fantôme et un mort donc sur le plateau pour infester le lieu, créer un suspense formidable pour le spectateur, quoi. Sachant en plus que la furie derrière va maudire toute la lignée et faire toutes les atrocités qui vont se perpétuer dans les Atrides, ce qui crée pour le coup un théâtre de l'angoisse et un théâtre de l'horreur dès le départ.
La pièce qui met en jeu la rivalité de deux frères, Thomas Joly, Altric, vous incarnez en plus, oui, sur scène, est un monstre à visage humain. Après avoir commandité le meurtre des enfants de son frère Thiès, il les lui donne à manger, ça on l'a déjà évoqué. Un père qui dévorerait goulûment ses fils dans une fête joyeuse. Un père qui mangerait sa propre chair. Je vous
laisse
finir.
C'est bien, c'est parfait. Ce genre de châtiment me convient tout à fait, jusqu'à nouvel ordre.
Voilà ce que vous dites sur la scène de la cour d'honneur du Palais des Papes à Avignon. Vous ne lui accordez absolument aucune circonstance atténuante. Rien ne semble pouvoir sauver Atrée de sa vengeance. Un peu comme Elio Gabalo de Cavalli, que vous avez mis en scène. C'était votre premier opéra récemment à l'Opéra de Paris. L'enfer n'était déjà jamais très loin et on vous voyait retrouver cette figure de monstre que vous semblez affectionné. Il n'y a pas toujours une part, quand même, quelque chose à sauver chez chacun d'entre nous.
D'entre nous ou d'entre ces monstres?
Est-ce qu'on est si différents? C'est ça la question.
Non, on n'est pas différents. C'est bien pour ça qu'il me passionne. Parce que, surtout en tant qu'acteur, on est obligé de chercher en eux la part d'humanité. Parce qu'il n'est pas question de faire leur procès à peine une première phrase lancée sur le plateau. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ait une empathie pour lui, malgré tout. Exactement comme quand on joue Richard III et que les gens sont émus à la fin de le voir mourir. C'est ça qui est passionnant à faire, c'est qu'il faut chercher dans le monstre, dans cette figure damnée, une part d'humanité. Et s'il a une part d'humanité, alors ça veut dire que nous autres, êtres humains, qui sommes vivants vraiment, qui ne sommes pas des personnages de théâtre, avons une part de monstrueux. Et cet aller-retour-là, voilà, un travail qui me passionne depuis plusieurs années. Et je dois vous dire, c'est même pas réfléchi de ma part, c'est-à-dire que je me rends compte, même là en revoyant mon tout premier spectacle, Arlequin poli par l'amour, je me rends compte finalement que c'est une figure qui... Le monstre est une figure qui voilà, qui est tracé dans mon travail depuis 12 ans. Et bon, voilà, je suis obligé de l'avouer maintenant, je crois que les monstres me passionnent.
Et oui, ça y est. Voilà, là, vous êtes absolument démasqué. Hein.
C'est ça.
Ilio Gabalo, c'était votre première mise en scène, donc, à l'opéra, avec le chef argentin Leonardo Garcia Alarcón, à la baguette. Alarcón qui nous disait « Aimez la modernité de vos spectacles ». Il trouve que vous incarnez bien la figure de l'artiste du 21e siècle.
J'ai vu, bien sûr, son Richard III à l'Odéon, et j'ai compris absolument que sa manière d'être traité, et lui-même comme acteur, la manière avec laquelle lui, il incarnait ses Richard III, convenait absolument à pouvoir aussi traiter de la même manière cet Elio Gabalo. Alors aussi, j'aimais beaucoup la vitesse de ses spectacles, la manière de traiter la lumière, la modernité. C'est vraiment un artiste du 21e siècle qui donne vraiment des choses nouvelles au rythme de l'opéra.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que nous dit Alarcón? Est-ce que vous êtes un artiste du 21e siècle aussi, tout en adaptant un texte écrit il y a 2000 ans, Thomas Joly?
Je suis ici, je suis là et maintenant. C'est de toute façon ce qu'on apprend au premier cours de théâtre, être ici et maintenant. Alors je le souhaite en tout cas. Après, je pense que ce qui peut-être est différent et peut-être est en train d'advenir avec une nouvelle génération dont je fais partie, c'est que une nouvelle finalement, pas si nouvelle que ça, il y en a encore une nouvelle là qui arrive, qui va à mon avis être passionnante, c'est que c'est une génération, nous sommes des générations qui avons grandi avec Internet, avec ce monde très ouvert, avec ces écrans dans lesquels peuvent s'alterner un texte de, je sais pas, Roland Barthes, et en même temps une notification pour découvrir YouTube, pour découvrir le dernier clip de Beyoncé dans le Louvre, et en même temps une page YouTube, une page musique, pardon, sur je sais pas quel artiste. Enfin bon, voilà, il y a une espèce de cumul comme ça, d'accumulation, peut-être qui fait que dans le théâtre qu'on propose, moi je le revendique, j'ai une culture qui, j'arrête pas de le dire, de Britain à Britney, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose où il y a ce trop-plein, cette accumulation, cette profusion, cette richesse-là peut-être, et que je remets dans mon théâtre. On parle d'un théâtre pop, alors moi je sais pas trop, c'est pas une volonté première, mais c'est un théâtre qui est fait avec les outils d'aujourd'hui, bien sûr. Moi, je suis baigné de films, de séries télévisées, de musique. Et quand je lis Sénèque, je me dis qu'il y a déjà 2000 ans, on savait faire peur, on savait éblouir. Et comme je suis quelqu'un qui aime le spectacle, que je fais du spectacle vivant, je remets tout ça dans... J'essaye de trouver la meilleure traduction, en tout cas pour les textes que je monte, même s'ils datent du 1er siècle.
Être un artiste du 21e siècle aussi, avec les sons, les voix, les scansions, telles celles de l'artiste slameuse qui se retrouve sur scène à vos côtés, au cœur d'un cœur.
Un roi, ce n'est pas la puissance et la richesse. Celui-là est roi qui s'est libéré de ses peurs, libéré du mal qui pourrissait son cœur-là, maîtrisé son ambition. Insensible aux faveurs capricieuses d'une populace aveugle, il ne cherche pas fortune dans les mines de l'Ouest, ni dans les sables du Tage, dont les eaux charmées de l'or, ni de la Bava, s'enrichir en Afrique, dans la poussière brûlante des airs du matage. Il n'emplit pas les sacs de blé. Un roi est inébranlable, inaccessible à la foudre oblique, au vent d'Ouest qui se lève la mer, à la tempête qui gonfle l'Adriatique, invulnérable à la lance du soldat, à l'acier, nu des épées. Le roi est au-dessus des dangers et regarde de haut le spectacle du monde, car il s'offre sans réticence aux accidents de la vie. La mort ne lui arrachera pas une plainte.
Oh. vous pouvez poursuivre là encore ou pas quand ça chante trop, Thomas
un
Jolie,
roi,
ça marche plus.
Un roi est inébranlable, inaccessible, invulnérable. Celui-là est roi qui ne désire rien, celui-là est roi qui ne craint rien. Chacun, chacune peut être roi ou reine, chacun est maître de s'offrir le trône ou de se le refuser.
Mon Thomas Jolie, metteur en scène, qui est notre roi aujourd'hui, invité Culture des Matins de France Culture à la fin. Ces mots de Sénèque, extraits de la colère, projetés sur les oui. murs du Palais des Papes. Une seule chose oui. peut nous rendre la paix, c'est un traité d'indulgence mutuelle. Après toute la noirceur évoquée ensemble, cette absence d'optimisme ou d'espoir, il faut quand même rappeler que Sénèque s'est aussi donné la mort. On retrouve quand même cette petite note d'ouverture. Est-ce oui. que l'indulgence, c'est mieux pour vous, Thomas Joly, que la bienveillance? Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot?
Ce que je mets derrière ce mot, c'est que on pourrait trouver tous les échappatoires violents qu'on veut. À un moment donné, le constat tout simple d'être tous vivants au même endroit en même temps, constat que fait le théâtre à chaque rideau qui se lève partout dans le monde dès qu'il y a un spectacle, ce constat d'être vivants tous au même endroit en même temps, on ne peut pas y échapper. Il va bien falloir trouver le moyen d'être ensemble, au moins le temps qu'on est vivant. Et donc l'indulgence permet juste la... Enfin, ce que j'essaye de dire avec ça, en reprenant les mots de Sénèque, c'est que on ne peut pas... À un moment donné, il faut accepter l'autre dans sa différence, dans ses déviances, et essayer d'aller dans la compréhension de ça, pas dans le rejet systématique, pas dans l'incompréhension immédiate, et trouver, oui, d'arriver, de préférer effectivement la bienveillance au rejet, la curiosité à l'indifférence, d'un allant vers l'autre. Vous savez, les tragédies romaines se terminaient normalement par deux acteurs comiques qui rentraient sur le plateau pour faire un sketch, et au rire général de l'assemblée, alors le théâtre était terminé, le spectacle était terminé. Pourquoi ? Parce que la tragédie nous laisse dans les ténèbres, c'est bien ça sa vraie violence, parce que là on parle des enfants, du cannibalisme, du meurtre, de l'infanticide, mais la vraie violence de la tragédie, c'est qu'elle nous laisse dans les ténèbres tous, tous les spectateurs repartent dans le noir, parce qu'elle n'offre pas de solution, elle pose juste le problème. Et donc ces deux acteurs comiques au moment du théâtre romain venaient clore et dépchiter, annuler le flot des larmes, et il me fallait trouver une fin sans... Alors, j'ai pensé refaire revenir des acteurs comiques, mais je me suis dit que personne ne comprendrait rien aujourd'hui à ça, à ce dispositif, et qu'on pourrait encore mal interpréter la chose. Mais je me suis dit, retrouvons chez Sénèque une leçon de vie qui est celle de l'indulgence mutuelle. Il faut que ce soit mutuel, bien sûr, sinon ça ne marche pas, l'indulgence. Et peut-être que ça permettra de ressortir et que ce soit un peu salvateur, de sortir de cette histoire horrible, quand même avec... dans les ténèbres, un tout petit peu de lumière quand même.
Et donc c'est à travers la morale de l'histoire, cette indulgence, que vous avez le sentiment, avec Thieste, de vous inscrire aussi dans la thématique du festival cette année, le mélange des genres.
Là-dessus, c'est assez passionnant parce que la question du mélange des genres dans Thieste, il y a évidemment que le théâtre romain était joué travesti, les hommes étaient travestis, etc. Mais c'est surtout ce qui est rigolo, c'est que notre ami Thieste, il est à la fois homme et femme, puisqu'il est quand même enceint de ses fils à la toute fin de la pièce, que ses enfants vivent dans son corps, qu'il devient ce monstre mythologique, et que oui, il y a là-dedans la question le monstre en latin, ce monstrare, c'est celui que l'on voit, celui qui est montré. Là-dessus, il y a quelque chose qui parle évidemment du théâtre, et la question du genre dans le théâtre, de l'exhibition, de tout ça, oui, évidemment, est présent, oui, tout à fait.
Avec vous, Thomas Joly, c'est toujours un théâtre au service du texte qui se met en scène, un théâtre où le metteur en scène est acteur plutôt qu'auteur, au même titre que celui qui signe la pièce. C'est cette conception du théâtre qui explique que vous franchissiez peut-être aisément la frontière qui sépare les coulisses de la scène pour jouer vous-même. Vous semblez en tout cas totalement incarner l'idée qu'Olivier Py se fait d'un théâtre populaire, c'est-à-dire au sens du TNP de Jean Villard, élitaire pour tous, qui vous demande, Olivier Py, et vous en redemande, puisque vous êtes présent une fois encore et que vous faites l'ouverture du festival cette année, est-ce que vous vous inscrivez, vous, directement dans cet héritage? Et puis au passage, peut-être vous allez pouvoir nous dire, c'est quoi, au fond, un théâtre populaire aujourd'hui, Thomas Joly?
Pour moi, le théâtre est populaire, point. Voilà, ça s'arrête là. Et populaire ne se...
Tous les théâtres sont populaires?
Il faut. Enfin, en tout cas, l'art du théâtre est populaire, c'est dans son ADN. Et quand je dis populaire, c'est pas du tout exemple d'exigence, du tout. Peut-être aussi de difficultés ou de choses ardues. Au contraire, je pense que l'exigence est la clé du populaire. S'il ne l'est pas, alors on est peut-être dans autre chose, parce que dans son ADN, depuis la nuit des temps, le théâtre est cet art qui parle à tous, qui doit s'adresser à tous. Et encore une fois, peu importe ce qu'il raconte et la dureté de ce qu'il raconte. C'est important parce que l'héritage dont vous parlez, en fait, moi je suis tombé de ma chaise quand je me suis rendu compte que finalement, le théâtre intéressait très peu de gens dans ce pays. Alors là, à Avignon, on a l'impression qu'on est très nombreux, mais nous sommes très peu nombreux, et encore beaucoup trop de gens pensent que le théâtre c'est trop cher, que c'est pas pour eux, qu'ils n'y comprendront rien, qu'ils sont impressionnés par les bâtiments comme les œuvres. Et moi je suis pas d'accord avec ça. 70 ans après cette politique culturelle incroyable de décentralisation, tous ces efforts de démocratisation qui ont été faits, il y a encore du travail, il y a encore beaucoup de choses à mettre en place pour que le théâtre, qui est un outil formidable, surtout aujourd'hui, on parle là de l'expression qui se libère, c'est formidable, c'est formidable, et hashtag MeToo, etc. C'est formidable. Tout ça est en train de bouger. Sauf que si l'expression se libère, quel est donc l'art qui permet la formulation, l'écoute, la réception des mots, le dialogue? C'est le théâtre. Le théâtre est un outil formidable pour notre époque, donc il faut pouvoir donner cet outil-là aussi à tous et passer par-dessus des... Oui, des inquiétudes, des appréhensions qu'il faut dépasser.
Thomas Joly, j'ai juste mal fait mon travail. La pièce Thieste de Sénèque, la vôtre, elle se joue jusqu'à quand à Avignon?
15 juillet.
Bravo, 15 juillet. Et elle va tourner ensuite partout en France?
Oui, en tournée à partir du mois de septembre, oui, tout à fait.
Merci mille fois à vous d'avoir été avec nous, et un grand merci à nos confrères de France Bleu Vaucluse de vous avoir accueillis dans leur studio. France Culture, il est 8h57.